Ben écoutez, donc aujourd'hui nous accueillons donc le séminaire de l'Association française des anthropologues. Nous accueillons la revue Chimère avec son numéro d'une actualité brûlante qui s'appelle Guerre et croyances et qu'ont coordonné Elias Jabre, ici présent, qui va animer cette séance. Et donner les tours de parole, Zorka Dormic et Jean-Claude Polac, qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure. Nous avons plusieurs auteurs ici présents, Anne Kerrien, Nava Méron, Marie-Dominique Garnier, et moi-même, même. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Elias, qui va d'abord présenter le numéro. Voilà.
Ok, bah merci beaucoup Monique. Donc, pour vous raconter un peu, je vais reprendre l'éditorial. Donc, c'est un numéro qui a été d'une certaine manière déclenché par Jean-Claude Polac, qui, bon, peut-être qu'il nous rejoindra d'ici tout à l'heure, qui souhaitait qu'on réinterroge l'écosophie guattarienne à partir de la notion de croyance. Et il était, comme nous tous, un peu heurté par tout ce qui se déroule en ce moment, les différentes guerres cette espèce de contamination généralisée des guerres et des remontées du nationalisme. Et il s'est dit qu'il fallait qu'à Chimère, on se réempare un peu de ces questions-là. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit initié ce numéro, qu'on l'a lancé, tout en étant un peu inquiet à se demander, avec toutes les années où Chimère a essayé de penser autrement la question des minorités avec Deleuze et Guattari et les questions politiques, où est-ce qu'on en était nous-mêmes? Parce qu'on se retrouve aussi un peu déboussolé par ce qui se passe et par les capacités politiques des notions dans lesquelles on travaille, qu'on habite, à transformer, à proposer des alternatives. Donc c'est d'abord né de cette inquiétude et petit à petit, vous entendez problème de sonde?
Oui, ça coupe de temps en temps.
Ok. Et petit à petit, du coup, se sont
Ouais, ça
agrégés.
coupe, je ne sais pas si
Ce
ça vient
qu'on
de
peut
toi.
faire, c'est couper nos caméras,
Oui,
peut-être.
c'est pour ça. Moi, j'ai coupé ma caméra parce que je pense que ça réduit, mais je ne sais pas si ça va résoudre les problèmes.
Alors, couper les caméras, c'est un peu triste, hein?
Bah, peut-être le temps de la présentation et puis que quand quelqu'un parle, parce que vraiment, c'est chez moi, c'est très.
Ouais, moi aussi. Et pourtant, ouais. Bon.
Alors attendez, peut-être que c'est mon réseau, je vais essayer de passer sur mon iPhone.
Ouais, passe sur un autre.
Vous m'entendez?
Bien, moi j'ai vérifié.
Là voilà, j'ai changé de. Donc.
Revenez, revenez sur vos qu'on voit vos visages parce que
Alors je
c'est
sais pas, hein, c'est peut-être.
triste.
Donc je disais que ce numéro est né de toutes ces inquiétudes et a un peu questionné même notre manière d'évoluer dans des notions politiques où on se demandait comment elles arrivaient à frayer et à proposer des alternatives. Donc c'est Jean-Claude en fait qui nous a mis face un peu à cette thématique et qui commence le numéro par un article qui s'appelle Quand les dieux et les guerres s'immiscent dans l'inconscient et il essaie de réintégrer, enfin non pas qu'elle n'était pas là, mais en tout cas de souligner la notion de croyance dans les enjeux écosophiques et de cette question des religions pour penser la production de subjectivité. Et au sens où on aurait pu penser, ou Guattari, donc c'est aussi une petite critique de Guattari à un moment, on aurait pu penser que les religions, ça allait être quelque chose, des coordonnées qui allaient petit à petit se faire déborder par d'autres enjeux, d'autres coordonnées, et où l'écosophie aurait pu se brancher dessus. Et en fait, on voit que ça continue à tenir finalement les subjectivités. Et donc, c'est cette interrogation qu'il porte, cette inquiétude dans son article. Alors ensuite, c'est un numéro aussi qui s'est beaucoup fait autour de la question de la guerre la guerre Israël-Palestine, de ce qui se passe en ce moment à Gaza, où on a été un peu convoqué par l'urgence de ce qui arrive, avec aussi, donc si on veut parler de ce qui peut se passer à un niveau plus personnel ou micropolitique par rapport à la revue Multitude. Anne Kerian, peut-être que tu voudras en toucher. De Anne, donc si tu veux peut-être en toucher un ou deux mots, où la revue Multitude s'est positionnée sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et à Chimère, bah, finalement, il s'est joué quelque chose où aussi avec Anne et avec nos propres ressentis, on s'est mis à travailler sur la problématique de ce qui arrive en ce moment en Israël et à Gaza et en Palestine. Et donc, surtout que ça fait partie aussi des couches profondes de la revue Chimère, parce que par exemple, Elias Sambar, cet intellectuel palestinien, a travaillé avec Deleuze, avait écrit avec Deleuze à ce sujet-là. Donc, on a trouvé le moyen de le joindre et j'ai essayé d'initier avec lui. Donc, ça sera à venir, mais pour le moment, j'ai commencé à lui poser un certain nombre de questions en reprenant un peu ce qu'il avait élaboré sur la question de la Palestine. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure parce que c'est l'objet de l'article que j'ai fait pour la revue. Alors, sur la Palestine, il y a aussi Quentin Mur qui a travaillé sur cette question et sur la manière dont les noms, il y a une espèce de guerre des noms qui a eu lieu sur la façon dont les noms des villes palestiniennes ont été petit à petit effacés, d'abord rayés, avant qu'on les supprime complètement. Donc, il a fait cette espèce de généalogie de la manière dont la guerre, c'est aussi une manière d'occuper l'espace et notamment la carte et de destituer des noms pour en mettre d'autres et comment tout ça est pris dans la logique de l'État-nation ou de l'État-national. Alors, il y a aussi alors Nava qui nous parlera d'un entretien qu'elle a fait avec Philippe Rekasevitz autour de son livre coécrit avec Dominique Vidal. Donc ça, c'est une histoire de la bande de Gaza, mais qui passe par un biais original, c'est à partir de la représentation cartographique. Qu'est-ce que les cartes racontent? Les visuels peuvent raconter d'une histoire qui ne se montre pas. Donc elle nous en parlera aussi. Alors, au-delà de la Palestine, mais toujours en relation assez immédiate, j'ai sollicité aussi Alan Bass, qui est un psychanalyste et philosophe américain, qui a travaillé, lui, sur la question, le principe du génocide. D'une certaine façon, il pense comment il serait nécessaire d'intégrer une réflexion psychanalytique aux politiques pour comprendre cette dynamique du génocide. Qui serait propre à l'État souverain et comment une telle importation serait peut-être nécessaire pour redéfinir des catégories juridiques, notamment au niveau du droit international, pour passer d'une souveraineté de contrôle à ce que l'ONU aurait qualifié ou inventé récemment, mais qui ne peut pas s'appliquer d'après Alan Bass si on ne fait pas cette importation d'une pensée plus psychanalytique. Donc cette nouvelle catégorie qui serait la responsabilité de protéger. Après, il y a aussi Giustino De Michele qui intervient dans ce numéro avec un article qui s'appelle Quelle invention encore? Sinaï, visage et déconstruction, où il revient sur un séminaire de Derrida autour de l'hospitalité qui accompagne et déconstruit Lévinas pour essayer de penser quelle invention est politiquement possible encore aujourd'hui. Et donc Giustino montre comment Derrida appuie Lévinas d'une certaine manière, tout en déconstruisant aussi une pensée de Lévinas qui pourrait être réactionnaire et problématique au sens où il mettrait une priorité du côté de l'éthique face au politique et tout ça, bon, bah, Derrida le rejoue complètement en s'appropriant Lévinas. Et en même temps, Giustino essaie aussi de montrer comment on n'est plus du tout dans le contexte de la fin des années 90 où avait lieu ce séminaire et comment il faudrait repenser la problématique même de l'invention aujourd'hui alors que le terrain semble tellement réduit, hostile, miné, et que ça nécessite donc de faire certains pas de côté. Alors, après Christiane, qui est membre donc de la revue, Christiane Voller, elle analyse une autre guerre qui se situerait dans le prolongement des guerres coloniales, mais qui aurait lieu directement chez nous, dans les quartiers populaires, où donc son article s'appelle « Des politiques d'hostilité en quartier populaire à l'islamophobie comme cause nationale ». Donc, elle essaie de mettre en perspective, comment il y aurait des politiques de discrimination et une guerre larvée qui ne dit pas son nom, qui sévirait ici même sur nos territoires en France, et comment cette atmosphère donc provoque aussi le désir d'exil de ceux qui aspireraient à faire pourtant partie de la communauté citoyenne. Après, il y a aussi un autre texte bah, où Martha Hernandez, que j'avais coécrit avec elle, qui interroge la question de la croyance et de l'enseignement, et donc qui est aussi situé un peu du côté de la pensée de Derrida, qui s'appelle Autobiographie, l'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre. Et ça pose la question de la croyance, hein, mais pour montrer que la croyance telle qu'on pourrait la croire naïvement, la penser naïvement du côté de Dieu, bon, bah, c'est en fait toute une problématique métaphysique liée à la vérité et au pouvoir et qui renvoie à l'assurance de sa propre identité. Et Dieu se déplace, ce n'est pas que Dieu, c'est l'État, le peuple, la nation. Donc, comment toutes ces coordonnées métaphysiques continuent à entretenir un certain rapport à soi, à la croyance en soi et à la communauté? Et comment cela aussi contribue peut-être à durcir les frontières et comment il y a une autre forme de guerre ou de déconstruction en cours pour essayer de sortir de cet héritage qui porte aussi nos valeurs et les institutions politiques. Alors, Chimère, je l'ai peut-être pas dit, mais je le rappelle maintenant, c'est composé de différents plateaux. Donc là, tel que je vous présente les choses dans l'éditorial, c'est un peu mélangé, mais dans ces plateaux, il y a un plateau politique, un plateau clinique, et maintenant donc ce plateau clinique, c'est s'intéresser donc à la problématique d'un numéro, mais à travers bah, la question de la psychanalyse. Et alors, dans ce numéro-là, pour ce plateau clinique, on a demandé à Françoise Davoine de nous faire un texte. Et Françoise Davoine a une connaissance particulière des traumatismes de guerre sur lesquels elle travaille depuis longtemps. Et donc, dans un article qui s'appelle La guerre des nerfs, elle a rappelé la nécessité de ramener à nous en France tout un héritage qui a été peut-être un peu occulté bah, par peut-être aussi la pensée de Lacan ou une certaine psychanalyse en France, alors qu'on y trouve des apports extrêmement riches pour penser cette question de la guerre. Donc, ce sont des psys anglo-saxons comme Aristax Sullivan, Frida From Reichman, William Rivers, Thomas Salmon, qui sont peu connus en France encore aujourd'hui, et ça permet de penser un inconscient non pas refoulé, mais dissocié pour survivre, et ça repose aussi la question du trauma d'une toute autre manière. Alors, il y a aussi Zorka, qui est membre du comité, qui est aussi psychanalyste, qui, elle, écrit à partir d'un livre d'un de ses compatriotes boliviens, Carlos Decker Molina, donc dans un texte qui s'appelle Pourquoi écris-tu toujours sur la guerre? Et donc, elle évoque le parcours de ce journaliste qui a suivi tant de guerres et elle associe avec sa propre expérience où elle a vu passer bah, dans son cabinet une multitude de patients issus de différentes guerres et comment on peut réagir face à ça en étant parfois un peu dépité où il s'agit d'écouter le silence du patient qui a l'air de ne plus faire partie de l'humanité. Donc, il y a un texte où elle parle avec cet écrivain, et dans un autre texte, elle fait un entretien avec Franz Himmelbauer, et ça tourne aussi de son expérience. Ensuite, on a aussi également demandé à Agnès Hafnaïm, qui n'est pas psychanalyste, mais qui est médecin, qui s'est spécialisée en somatopsychopédagogie, donc elle travaille au centre Primo Levi. Et elle utilise, elle, une thérapie manuelle pour soigner les victimes de torture, où il s'agit d'accompagner le patient pour qu'il arrive à se retrouver en écoutant la matière du corps qui est animée par un mouvement interne qui serait bah, la vie en lui, comment il faut faire pour réanimer des parties de lui pour que la vie puisse à nouveau circuler à travers son corps. Alors, après le plateau clinique, donc il y a aussi des témoignages personnels de qui enfin que alors là on peut retrouver un texte d'Anne et de Monique qui racontent comment une certaine expérience de la guerre et de la dissidence a forgé leur parcours politique et leur subjectivité. Bon, je vous laisserai en parler plus longuement. Et Monique, qui a aussi écrit L'entre-deux-guerres sur fond de guerre. Après, Anne a demandé aussi à Marc Hatzfeld de nous proposer un texte qui s'appelle La guerre au bois dormant, où là, il traverse différents ouvrages de littérature ou des mythes ou des textes sacrés pour faire une espèce de parcours, de cheminement pour essayer de penser la guerre telle qu'elle apparaît dans la littérature et comment ça nous traverse. Ensuite, alors, la couverture du numéro est faite par André Robillard, donc qui est enfin, c'est un dollar brut, et donc il est assez connu à Chimère. Et Valérie Marange a essayé, enfin, est allé chercher un texte d'Alexis Forestier qui travaille justement avec cet artiste pour faire des spectacles. Et donc, elle a demandé à Alexis Forestier et Marie-Josée Montzin qui avaient déjà fait un entretien au sujet de ce travail de nous proposer enfin d'intégrer au numéro ce texte. Donc toute la revue est parcourue par par les images d'André Robillard, donc que vous pouvez découvrir au fil du numéro. Ensuite, bah, Anne a aussi fait une sorte d'article compte-rendu du devenir professionnel du son en prison avec Nicolas Frise. Elle nous en parlera. Et Marie-Dominique Garnier a, elle, écrit une sorte de parodie du Scum Manifesto de Valérie Solanas dans un Scum Manifeste qu'elle pourra aussi nous présenter. Et enfin, le numéro se termine avec un petit texte de Marco Candor qui appartient aussi au comité et qui rend hommage à David Lynch, donc mort récemment, dans son style assez étrange d'enquête en forme, appelle-t-il ça, de jeu lipodramatique. Bon, ça renvoie à tout l'univers de Marco Candor. Donc voici à peu près la présentation du numéro et peut-être bon bah pour donner la parole tout de suite à un des participants, Anne, peut-être tu pourrais nous dire quelques mots de la manière dont le numéro s'est passé pour toi et de ton texte.
Oui, bon, j'ai pas, c'était lancinant qu'il fallait parler de la guerre, de ce qui se passe maintenant, etc., et qu'on y arrivait, enfin, moi, j'y
Juste,
arrivais pas.
j'interromps une seconde pour nos collègues, amis, etc., qui ne nous connaissent pas. Ça serait bien de se présenter avant de parler.
Mais ça veut, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire se
Ben,
présenter.
écoute, alors je vais te présenter moi-même. Donc, Anne Kerrien, sociologue, membre du comité de rédaction. Voilà,
Voilà,
tout
ben tu vois,
un fondamental dans la préparation du numéro.
Bon. Oui, donc dans la pression de Jean-Claude pour qu'on parle des guerres actuelles, bon, on a très peu de prise, on ne voyait pas trop. Et la pression aussi pour qu'on parle de la religion dans l'inconscient et les bifurcations, etc. Ça me parlait plus en fait. Et donc, c'est moi ce que j'ai raconté, c'est une expérience personnelle qui est bon, liée au fait que j'étais dans une famille catho, mais qui fréquentait théologiens des prêtres ouvriers. Enfin, des dominicains de gauche pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, il y avait une contradiction entre le discours officiel de l'Église qu'on entend le dimanche au sermon, et même le curé de Saint-Sulpice était relativement ouvert, et aussi l'enseignement religieux. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a frappé, donc, c'est le hiatus entre vous êtes tous frères, etc., et puis une scolarité dans un établissement public, mais très marqué par la présence d'un aumônier, etc., et qui propose, enfin, oui, quand j'avais 8 ans, j'entends toutes les petites filles qui ne viennent pas au catéchisme iront en enfer. Bon, donc voilà, bon, j'ai pas envie de parler de ça, en fait. Bon, j'ai écrit un truc un peu bio sur une espèce de sortie à la fois causée par la fréquentation donc de théologiens et de dominicains cathos qui étaient très, très ouverts et à gauche, et un milieu par rapport auquel je me suis trouvée en rupture, où, par exemple, quand j'avais donc 18 ans environ, à l'intérieur du pèlerinage de Chartres, où il fallait discuter du sujet Jésus, c'est la charité, en marchant, eh bien, il y a une fille qui dit si on avait tué tous les Arabes en Algérie, on aurait pu y rester. Donc, je trouvais ça peu charitable, et là, ma trajectoire s'est arrêtée. Je suis sortie de la dite église catholique. Mais d'une certaine façon, enfin, c'est ce que j'essaie un peu de dire, au nom même des principes qu'elle m'avait inculqués. Et qui se heurtait à la réalité sociale quotidienne. Bon, ça va?
Oui, merci Anne. Ce que je voulais dire, puisqu'on n'est pas dans une réunion du comité de rédaction, mais qu'on a des collègues là qui sont anthropologues et des collègues qui sont aussi archéologues, etc. Quand on cite les prénoms, et même Jean-Claude Polacq, faut rappeler, donc psychanalyste, psychiatre, psychanalyste, fondateur de la revue, avec Félix Guattari. Et a travaillé longtemps dans la clinique de la Borde, afin qu'on puisse faire communiquer tout de même les différentes personnes qui viennent d'horizons différents. Voilà, juste moi, ce que je voulais ajouter à la présentation d'Elias, qui était une présentation particulièrement complète, c'est que ce numéro est vraiment d'actualité, hein. Je veux dire, on a commencé à le préparer il y a un an. Mais je veux dire qu'avec les déroulements, les saccades en fait de la guerre qui se poursuit en Iran, qui se poursuit, qui s'arrête, qui va se poursuivre, je veux dire qui est fondée sur de plus en plus de mensonges et de provocations. Ce numéro est très est véritablement très d'actualité. Et par ailleurs, je crois que ça, l'originalité véritablement de ce numéro, c'est effectivement et c'était ça qui avait été dit au départ. Enfin, quand on a commencé, tu me contrediras, Elias, si je me trompe, ou Marie-Dominique ou Anne Kéria. C'était véritablement, je veux dire, qu'est-ce que nous fait la guerre? Et donc le rapport entre inconscient et guerre, et comment ce rapport, en fait, va avoir des conséquences sur l'ensemble de nos vies et aussi sur l'ensemble de nos collectifs, puisque ce qu'on a vu, enfin, c'est pas du tout à chimère, je veux dire, chimère, c'est en quelque sorte, le collectif s'est unifié pour produire ce numéro, mais on a l'exemple d'autres collectifs où effectivement, je veux dire, la guerre, avec toute sa charge inconsciente, a provoqué des ruptures dans les collectifs qui sont de fait des ruptures qui restent terribles. Voilà ce que je voulais ajouter. Je te redonne la parole, Elias, si tu veux la distribuer ou voilà.
Bah écoute, avant que je te la redonne au sujet de ton article, on pourrait peut-être demander à Nava de nous raconter un peu comment ça s'est passé pour elle, comment bah déjà si tu peux te présenter et
Oui.
parler de cet entretien et pourquoi tu as eu envie de le faire et
Alors, bonjour et merci de m'avoir invité à ce numéro. Alors, historiquement, j'étais dans le numéro Ville et guerre avec Anne Carrien il y a 20 ans, 25 ans même, 20, en 2001, où j'étais étudiante en architecture. À ce moment-là, je sortais de l'école d'architecture, donc je suis architecte de formation, je me présente, et j'ai fait un doctorat en aménagement urbain. Et j'ai beaucoup travaillé sur la notion de frontière et issu de mes études, j'avais fait un article qui était sur la cartographie de la bande de Gaza, spécifiquement, avec une relecture des enjeux qui peuvent être effacés, amoindris, mal dimensionnés dans des enjeux géopolitiques, dans des cartographies différentes. Et à ce moment-là, j'avais cité un des cartographes qui était Philippe Rekasevich et qui m'a écrit en me disant super, je te remercie beaucoup de m'avoir donné cette dimension que je n'avais pas vue forcément de ce que j'avais fait dans mes cartes. Et à partir de là est né un vrai échange entre nous et une vraie belle amitié donc qui dure et qui va depuis. Et donc, quand il a sorti ce bouquin, Manuela Antonioli, qui savait qu'on était en lien, m'a dit pourquoi tu ferais pas cet entretien avec lui? Et j'ai saisi l'opportunité en me disant c'est chouette. 25 ans après, je peux revoir les choses. Entre-temps, il y a eu tellement de. Alors, je n'ai pas du tout travaillé toute cette période sur la bande de Gaza. J'ai poursuivi avec d'autres choses. Mais l'actualité a fait que revenir sur cette histoire avec cette temporalité et avec cette vision critique que nous avions tous les deux, Philippe et moi, Philippe Rekasevich, donc cartographe qui était cartographe du monde diplomatique pendant très longtemps et qui maintenant est indépendant, voilà, c'était un espèce de retour en arrière, voir ce qui s'est fait entre-temps. C'est vrai qu'entre l'écriture et de son livre et de cet article et l'effacement de la bande de Gaza, littéralement aujourd'hui, on aurait pu refaire l'article autrement, je pense, parce que voilà, la réalité est ce qu'elle est. Il y a quelques journalistes et très peu de regards sur, je veux dire très peu parce qu'on laisse peut rentrer dans la bande de Gaza et voir les choses de près, mais ceux qui le font rapportent des choses vraiment assez, voilà, très difficiles à traduire en mots, tellement il n'y en a pas, je veux dire, tellement c'est effacé. Donc voilà, c'était une volonté de revoir des choses, de renouveler un dialogue sur un espace qu'on a connu d'une certaine manière. Et qu'on revoit dans une autre réalité après. Donc on n'était pas du tout une entrée habituelle, je pense, de votre revue. On était vraiment des ovnis dans le sens de invité extérieur avec un regard sur quelque chose de très spécifique, cartographe, architecte, Mais voilà, dans certaines choses, je me suis retrouvée dans certains articles ou des dialogues qui étaient possibles dans les choses. Donc, je suis contente de cette expérience et je vous remercie. Alors, l'article lui-même, il est vraiment un entretien avec. Alors, j'avais fait l'entretien et avec Philippe Recasevic et avec Dominique Vidal. Dominique Vidal, pour ses raisons, a voulu se retirer préférait se faire porter par Philippe Recasevic, justement. Donc, qui ont, eux, fait un travail déjà de dialogue entre eux, entre un journaliste et un cartographe, qui revisitait l'évolution des matériaux graphiques et des discours qui vont avec à travers l'histoire depuis l'Israël mandataire, je veux dire la Palestine mandataire et jusqu'à aujourd'hui. À peu près. Donc, et leur point de départ était effectivement la volonté de permettre un dialogue à partir de gros tabous autour du 7 octobre et des responsabilités éventuelles y aurait des deux côtés et de aplatir aplatir, essayer de revenir aux sources de beaucoup de ces malentendus, mal interprétés, amalgamer des choses, voilà, de cet ordre-là pour essayer de les analyser. Je ne peux pas dire froidement, on n'est jamais vraiment froid face à ces choses-là, mais en tout cas avec des faits ou des faits plus factuels, je dirais, graphiquement et en les analysant. Voilà en gros, je ne vais pas être trop longue, mais voilà le comment du pourquoi et évidemment, voilà, je répondrai à ce que vous.
Ok, merci.
Merci.
Bon, alors, vu que là, on est sur la Palestine, bon, moi, je peux dire deux, trois mots de la lettre à Elias Sambar, là, sur laquelle j'ai réfléchi ou j'ai essayé de voir. Donc, Elias Sambar, il a écrit avec Gilles Deleuze Les Indiens de Palestine en 82. Et il raconte, en fait, comment le 7 octobre, d'une certaine manière, c'est la suite logique hein, de la politique de l'État d'Israël où il ne s'agit pas d'une simple colonisation, mais d'une situation d'expulsion où l'on vide le territoire de son peuple et où on fait comme si ce peuple n'avait jamais existé. Donc, bon, au fil de mes recherches pour essayer de m'adresser à lui, donc j'ai lu différents textes, notamment. Un texte d'Edouard Saïd paru à La Fabrique, Israël, Palestine, l'égalité ou rien. Et là, je suis par exemple tombé sur un texte d'Edouard Saïd qui s'appelle Se souvenir de Deir Yassine. Et donc, c'est un massacre qui a lieu en 48 et les résonances avec le 7 octobre sont incroyables, sachant que bon, ce massacre, il est perpétré par. L'Irgun, Begin, hein, qui va petit à petit va faire tout un parcours politique, et c'est finalement ceux qui sont à l'origine du Likoud et de la politique de Netanyahou. Donc Netanyahou est dans le fil ou dans la continuité de ce qui s'est passé à Deir Yassine, et d'ailleurs c'est un peu ce que raconte Edouard Saïd. Et donc c'est une manière justement en reprenant l'histoire à partir d'un autre massacre de raconter. Ce qui a pu se dérouler le 7 octobre avec l'étonnement d'un effet miroir aussi absolu. Bon, et alors moi, étant d'origine libanaise, j'ai toujours forcément Sabra et Shatila toujours en tête. Donc je me suis interrogé aussi sur ces différents massacres où là, c'était des chrétiens, même si ils étaient, comment dire, accompagnés de l'armée israélienne pour faire ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est aussi toute une interrogation sur ces mouvements de crispation identitaire. On parle beaucoup de fascisme, donc c'est un mot. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Alors, comment ce mot a encore du sens quand on arrive à un tel niveau de conflictualité et de haine de l'autre? Où est-ce que ça se joue? Où est-ce que ça se situe? Et donc j'ai essayé de réfléchir à ça à l'aide des travaux qu'avait fait déjà Elias Sambar, qui lui raconte comment Israël fonctionne en fait sur une espèce de double théologie qui serait d'une part une théologie religieuse au sens assez classique, et derrière cette question de la Shoah qui aurait été érigée en mal absolu, où ça serait aussi une forme d'autre théologie. Et ça créerait ces effets un peu étonnants où alors qu'il y a une gauche israélienne qui a beaucoup de comment dire d'antipathie pour les religieux israéliens malgré tout en raison de ce trauma et en même temps réel de la Shoah et de la manière dont ce mal absolu a été érigé aussi par des discours, par toute une pensée. Rejoindrait ou serait mécaniquement poussé à rejoindre des positions finalement d'extrême droite, mais qui jouerait sur un traumatisme collectif réel et qui serait en même temps instrumentalisé par, j'allais dire, la vraie droite israélienne, beaucoup plus théocratique, qui jouerait sur les deux tableaux pour pouvoir pousser quelque part les Israéliens dans cette direction du pire où on s'est retrouvé aujourd'hui. Donc voilà, c'est le type de réflexion que j'essaie de dérouler un peu, et il y en a d'autres. Sinon, Quentin Mure n'est pas là pour nous parler, lui, de son texte, mais qui est assez intéressant sur la manière dont il y a eu un comité des noms qui a été, ou des noms et des dénominations, j'allais dire, qui a été monter en Israël pour essayer de réécrire complètement toute la carte du pays. Bon, je vous laisserai découvrir
Et
ça.
si je peux me permettre, qui continue, c'est-à-dire qu'il y a un travail continu sur l'effacement et la désignation des nouveaux noms qui vont prendre place. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est quelque chose qui est en continu et qui est très parlé en ce moment.
Donc voilà, ça, alors ça c'est sur la question palestinienne. Sinon, peut-être Monique, je peux te rendre la parole pour que tu nous parles de ton texte à toi, ou ça parle aussi des guerres, mais pas forcément des guerres actuelles, mais comment ça a toujours jalonné ton parcours?
Oui, ben moi je vais être très rapide, aussi rapide que Anne tout à l'heure. C'est un texte qui se veut à la fois politique et personnel. Et en fait, je suis partie d'une interrogation, hein, qui était pourquoi, alors que dans ma génération, beaucoup de gens se mobilisent déjà pour la Palestine, pourquoi moi-même, c'est pas ma guerre, c'est pas ma cause. De celle de quand j'ai 20 ans, mais effectivement, c'est beaucoup plus le Vietnam contre la guerre duquel je m'engagerai en fait dès mes 15 ans, c'est-à-dire dès les années 65, qui est une période où on fonde dans les lycées des comités Vietnam. On était dans le même lycée, Anne Kerrien et moi-même, mais à des périodes différentes. Donc, mais en fait, avec le surplomb, pardon, égal de l'Église catholique et avec la mention de l'enfer tout à fait égale, bien que ça soit quelques années plus tard. L'enfer n'était pas une métaphore au lycée Victor de Rully, l'enfer était une réalité dont les jeunes filles que nous étions étions menacées en permanence dès qu'on faisait un pas de côté. Donc c'est un texte qui revient sur un itinéraire où je me suis heurtée à plusieurs guerres, hein, et où j'ai affronté en même temps, où je suis rentrée dans la logique de guerres différentes, et en particulier avec le Bangladesh, dont la guerre de libération, je veux dire, a été extrêmement importante. Je vous rappelle aussi, c'est quelque chose que je redisais dans notre réunion d'hier du comité de rédaction, que les Moudjahidines bengalis, qui aboutissent donc à l'indépendance du Bangladesh en 1971, considéraient qu'ils avaient eu plus de morts que la Shoah, c'est-à-dire 8 millions de morts dans les quelques 10 années qu'avait été le parcours de leur guerre contre le Pakistan, Après, je le rappelle, la partition effectivement de l'Inde, ancienne colonie anglaise, partition donc faite par la puissance colonisatrice entre le Pakistan d'un côté et l'Inde de l'autre. Donc en fait, dans mon parcours personnel, anthropologique, les guerres, je veux dire, dans lesquelles je me suis, puisque je peux dire, je me suis immergée dans la guerre du Bangladesh, parce que je l'ai suivie, j'ai suivi ce déroulement et je continue à suivre ce qui se passe dans ce pays où, comme vous le savez, la Ligue Awami qui avait gagné cette guerre de libération a été destituée avec Cheikh Hasina il y a un an. Et où c'est maintenant l'économiste international Younous qui dirige le pays et dont on attend désespérément l'annonce d'élection. Donc voilà, comment aussi j'ai rencontré la guerre au Soudan un peu par hasard dans les années 70 où régnait la famine dans le Soudan du Sud. Et donc voilà, je crois que ce que j'ai essayé de faire, c'est cette articulation qui nous est chère dans la revue entre effectivement affleurement de l'inconscient et mode de production de subjectivité et immersion dans des actualités qui sont des actualités décentrées ou des actualités au centre duquel on est entièrement. Voilà ce que je peux dire.
Ok, merci Monique. Alors, vu que nous avons aussi Marido qui est parmi nous, peut-être que tu peux nous parler un peu de ton texte ou ta façon par l'écriture de raconter l'atmosphère générale dans laquelle nous sommes immergés en ce moment. Qu'est-ce que tu...
Ouais, ça va être très rapide. Donc, je ne me présente pas, comme l'a dit Anne. Rapidement, je viens plutôt de littérature et donc de...
Si tu te présentes, Marido, tu es professeur
On me présente.
à Paris 8.
C'est terrible, je ne vais pas vous montrer ma carte d'identité. Alors, pour Chimère, justement, j'ai changé de nom. J'en ai marre de mon nom, Marie-Dominique Garnier, que je traîne partout. Et donc, j'ai raccourci en Marido Garnier. Et les personnes qui parlent espagnol m'expliquent que Marido, ça veut dire Marie en espagnol. Mais bon, je suis entre plusieurs noms. Et du coup, je suis à Paris 8 depuis un bail, depuis 96. Donc, je vous laisse faire le calcul. J'en ai marre de Paris 8, même s'il y a des avantages encore là-bas et il reste en quelques bribes de Vincennes si on les cherche sous les tapis. Et donc, pour me soigner, je suis arrivée à Chimère et je suis bien contente. Et voilà. Bon, alors du coup, je ne vais pas parler trop longtemps. Je voulais juste reciter une belle phrase du très bel éditorial que coécrit pour ce numéro, mais c'est Elias. Alors, je ne sais pas, vous êtes mis à trois. Il y a une très belle phrase, deuxième page de l'éditorial, où Elias dit comment ne pas sonder nos propres forces pour ne pas finir emmurés en nous-mêmes, cryptés dans un cri, coulés dans le béton armé. C'est vraiment de la poésie, c'est très beau. Et du coup, alors, ben moi, je suis allée voir du côté de Solanas parce qu'on parle d'elle pas mal en ce moment. Des bouquins sont sortis, on a réédité son Scum Manifest, son manifeste Scum. Donc, j'enseigne en études de genre maintenant, et du coup, ce genre de texte est intéressant aussi parce que c'est quelqu'un qui a été diagnostiqué schizo, qui a voulu tout casser dans un texte magnifique de 66, qui a accusé Andy Warhol de lui avoir volé une de ses pièces de théâtre, qui a tiré sur Andy Warhol. Et donc la personne qui en est sortie dans les médias, c'est surtout Andy Warhol et pas Valérie Solanas. Sauf que récemment, un livre lui a été consacré par Patrice Manelier et Sylvia Lippi, un livre que je n'ai pas aimé du tout, où elle est censée devenir uniquement un prénom, Valérie, Valérie. Et en demandant à Sylvia pourquoi elle l'a réduite à un prénom, Sylvia me dit, mais c'est ça la sororité, on ne s'appelle que par nos prénoms. Or, il me semble que dans ce numéro, justement, il est question de nom, de guerre des noms. La logique du nom et du nom propre et de la renomination est apparue plusieurs fois dans ce que vous avez dit, que j'ai trouvé très intéressant. Je voulais lire le numéro dans sa totalité avant d'arriver là. Et bien sûr, j'ai pas fini. Je suis loin d'avoir arrivé à lire tout. Mais du coup, sur la question du nom, j'avais fait un article qui n'est pas publié sur Solanas, le nom propre de Solanas, où j'entends une espèce
de noms magnifiques de solanacées, de plantes qui résistent, qui empoisonnent, mais qui cherchent à empoisonner de manière salutaire et à droguer des choses irrespirables. Et du coup, je suis partie sur la piste du poison des molécules en partant de ce nom, en essayant de greffer à son texte, qui est assez court, donc dont j'ai mis des petits bouts dans le texte que j'ai essayé d'assembler, et je m'y suis surpris à plusieurs fois, et je suis même pas sûre que ça marche. Donc il y a des citations de Solanas qui semblent assez proches des discours absolument irrespirables qu'on entend actuellement. Alors, c'était l'époque où Musk était encore beaucoup plus audible. Maintenant, il est plus vraiment là. Mais donc, c'est un texte à la fois contre et sur ce que font ces visages et ces noms, Trump, Scum. Pardon, Musk. Et du coup, je les ai abordés par la piste de l'irrespirable, sachant que en travaillant Musk à l'envers, enfin, Scum Musk, il y a une espèce d'effet palindrome. Donc, je me suis saisie du prétexte, ce qui vaut sans doute pas grand-chose, mais de ce palindrome. Que fait ce nom, qui ressemble à donc Scum, qui vient en fait, ce beau mot qu'utilise Valérie Solanas, ça vient de l'écume. Ça vient de l'écume en français. Écume, ça a donné scum en anglais. Et donc en anglais, scum, c'est la lie, c'est vraiment ce qui traîne dans le caniveau, c'est ce qu'il y a de pire et d'immangeable. Mais l'écume, c'est aussi ce dont sort Vénus dans sa coquille de. Donc c'est blanc, ça mousse, donc ça peut basculer d'un côté ou de l'autre, c'est un genre de pharmacos, comme dirait peut-être Elias. En tout cas, ça bouge des deux côtés. En tout cas, le scum, donc Musk, j'ai essayé de me payer sa tête, si on peut dire, en transformant son nom en mauvaise odeur de parfum, le musc, qui pue, qui sort des glandes d'un animal virilisé en Chine, qui est le chevrotin mâle. Et donc, j'ai essayé de construire une bande-son irrespirable, tout en étant assez proche. Alors, ça commence par une. J'aurais peut-être pas dû commencer par là, mais une des phrases de Solanas dit: vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Et il me semble que si on avait fait discuter, ce qui est bien sûr impossible, Solanas et Musk, il aurait dit: je suis complètement d'accord. Regardez, j'ai fondé une boîte qui s'appelle The Boring Company. Il y a beaucoup d'humour dans ce que fait Musk. Malheureusement, il sait aussi manipuler des molécules diverses. Et donc, quand il a fondé sa compagnie de percement de tunnels dans Los Angeles pour prétendument enlever tous les bouchons de la ville et faciliter la fluidité, etc. Le capitalisme liquide, bon, c'est aussi pour se préparer à faire des trous dans Mars. Et du coup, il a appelé ça The Boring Company avec une dose d'humour qu'on peut pas ne pas voir. La compagnie chiante, boring, mais la compagnie qui fait des trous, boring. C'est le même mot en anglais. Du coup, je suis partie là-dessus et je me suis dit que en citant des bribes de phrases donc du manifeste de Solanas, qui a vraiment trois buts dans la vie: retirer tous les hommes, supporter uniquement les travelots, ce qu'elle appelle les travelots, garder les femmes à condition d'en modifier un peu leur projet politique, se débarrasser du travail, détravailler et supprimer l'argent. Et donc, alors ça résonne un peu avec des choses, c'est pas très loin. On peut évidemment proposer cette idée scandaleuse qu'entre la récupération actuelle, enfin récupération n'est pas un bon mot, mais les projets politiques de Trump, Musk, etc., à partir de signifiants qu'ils émettent, comme par exemple Musk parle du grok, son langage artificiel, son intelligence fondée sur l'intelligence limbique et l'intuition, groké, c'est un terme qui est employé par les informaticiens, et donc il y a une espèce de langue perverse, grok, qui vient se greffer sur tout un ensemble de molécules ou de sons, et de même quand Valérie Solanas s'en prend à la paternité. J'ai joué aussi sur les relations un peu étranges entre Musk et Trump. Quand Trump parle de la fusée de Musk arrivant à se reposer, donc le lanceur arrivant à se reposer sur sa base, comme a baby. Il y a vraiment la logique du baby. Ces deux hommes ont fabriqué ensemble, à leur façon, un baby qui est une horrible, que cette espèce de. Voilà. Donc il y a toute une espèce de relation perverse, pseudo-materno-paternelle entre ces deux mâles. Et donc j'ai continué à me payer leur tête en les traitant de moscos, qui veut dire jeune garçon en grec ou en groc. Donc il y a une espèce une constellation de noms toxiques. Et bien sûr, ça arrive à cette idée qu'il faut supprimer l'argent. Et c'est pas tellement loin de ce que projettent aussi des gens comme Musk qui veulent fabriquer des actifs virtuels. Enfin bon, voilà. Alors, bon, c'est juste un coup de poing dans une tête insaisissable ou dans deux têtes. J'essaie d'envoyer dans un jeu de massacre. Je suis pas sûre d'avoir massacré grand-chose. Par contre, au moins, ça soulage de fabriquer ce genre de texte. Et finalement, j'ai essayé de donner la parole à Valérie Solanas, bien sûr, qui dit, mais attendez, là, il y a un problème, j'ai rien à voir avec Musk. Bon, voilà. Mais je trouve que c'est intéressant de rapprocher les langues actuelles médiatiques et la manière dont elles propagent par molécules presque respirables, par parfum. Il y a une espèce de parfum puant qui s'appelle Musk, ce musc, et qui pénètre un peu partout quand. Guattari parle de révolution moléculaire, évidemment, ça peut passer du côté le plus toxique possible. Enfin, toxique, c'est pas non plus un bon mot, mais en tout cas, ça va un peu partout. Et en relisant le texte d'Anne, je me souviens, Anne, que tu dis, quand tu étais petite, tu voulais un doudou martien. Tu
Oui.
voulais aller au bon marché pour acheter un doudou martien, mais que le bon marché n'a pas voulu. J'ai pas compris pourquoi le bon marché
Il
n'a pas
devait faire une
voulu.
expo. Toutes les vitrines de Noël étaient avec des personnages martiens verts. Bon.
D'accord.
Et moi qui voulais aller sur la planète Mars, être astronome, mais j'étais une fille, ce n'était pas possible. Je voulais un doudou martien, oui. Et ils ont jeté leur vitrine. Ma mère est allée demander si on pouvait
D'accord.
récupérer un martien. On lui a dit non.
Ben, tu vois, récupérer un martien, c'est aussi dans l'ordre des désirs auxquels on nous fait croire actuellement ou qu'on nous fait
Oui,
boire
mais
à cette source empoisonnée. Oui,
c'était il y a
oui, oui, oui. Mais tu vois,
70 ans, hein.
mais ça agit sur les mêmes. C'est magnifique. Mais bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette phrase dans ton texte. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins terminé. Mais donc, relisez la vraie, relisez Solanas. Il y a d'ailleurs une exposition actuellement sur l'art brut, rien à voir a priori, mais il a été question d'art brut tout à l'heure avec Forestier. Et donc, il y a une expo au Grand Palais Pompidou qui vient de commencer le 20 juin. Je ne suis pas allée la voir encore.
Merci beaucoup Marie-Dominique. Ben, pour suivre nos coutumes anthropologiques, on va peut-être après ces différentes présentations donner la parole à tous ceux qui sont présents en ligne et qui ont envie d'intervenir et de réagir par rapport à ce qui a été dit, d'interroger, d'interpeller, de commenter, de provoquer. Voilà. Donc la parole est à vous. Fatia, qui co-anime ce séminaire avec moi, a été obligée de partir pour des raisons personnelles. Donc la parole est à vous. Je ne sais pas qui est Samsung. Samsung.
C'est une marque.
Oui, bah
Oui.
écoutez, moi je veux bien l'apprendre, je vous remercie beaucoup. Alors, je
Yves,
découvre un peu la
c'est-à-dire,
revue, hein, je suis désolé.
tu te présentes.
Alors, Yves Lacascade, donc je suis sociologue et je suis membre du comité de rédaction du Journal des anthropologues, voilà, et donc membre de l'AFA. Donc, je découvre, ben, il faut bien le dire, grâce à Monique et grâce à ce séminaire, la revue, donc voilà, que je vais lire, dont je vais lire ce numéro avec grand intérêt, d'autant que j'ai toujours beaucoup aimé le travail de Deleuze et Guattari. Donc, voilà, je suis ravi de découvrir cette revue et je m'excuse de le faire aussi tard, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, autrement, non, mais moi, à propos de ce signifiant guerre, bon, je voudrais dire une chose, c'est que dans le terme guerre, il y a, alors, j'espère choquer personne, mais dans le terme guerre, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que guerre, pour moi, en tout cas, dans mon imaginaire, et je sais pas dans mon inconscient, mais dans ce qui affleure de mon inconscient, c'est quelque chose qui fait peur, mais c'est quelque chose à quoi on peut survivre. Enfin, voilà, il y a à boire et à manger dans le terme de guerre. Le problème aujourd'hui, c'est que il me semble que
que ce terme est remplacé par autre chose, enfin la réalité qui nous est proposée, que ce soit à Gaza notamment, mais aussi à travers les massacres de civils en Ukraine ou tout ça, finalement c'est autre chose que la guerre, c'est la destruction pure. Et il me semble que, alors je ne sais pas comment dire ça, mais il me semble que de reparler de guerre, ça permet d'affronter ce qui se passe, donc de manière un peu contre-intuitive. Moi, je pense qu'on sait faire face, on sait faire face en tout cas au signifiant guerre. Par contre, on ne sait pas faire face à d'autres signifiants qui sont mobilisés à juste titre aujourd'hui pour décrire ce qui se passe, mais qui, eux, nous laissent absolument, enfin, qui, eux, sont aussi faits pour nous déstructurer complètement, nous perdre, nous détruire et nous laisser, donc comme Elias le disait, emmurés en nous-mêmes. Voilà.
Merci Yves. Oui, je crois qu'effectivement, c'est très important de suivre la. Enfin, je veux dire, toute cette évolution où on est passé de guerres qui étaient relativement réglementées ou d'affrontements relativement réglementés à quelque chose qui aujourd'hui, dans différents endroits, ressemble à de la destitution absolue, quoi. Et je ne pense pas seulement à Gaza. Je pense aussi par exemple à la Birmanie, hein. Aux Rohingyas, je veux dire, dont les villages ont été brûlés, dont les enfants ont été tout simplement brûlés, etc. Et où il y a des milliers de morts. Et là aussi, il s'agit d'une expulsion. Enfin, les Rohingyas, population musulmane dans une dictature militaire bouddhiste. Je veux dire, si on peut parler de dictature militaire islamiste, on peut pas islamique, pardon, on peut parler aussi de dictature militaire bouddhique. Donc, les Rohingyas doivent disparaître, la population musulmane doit disparaître, et comme celle de Gaza, personne n'en veut, hein. Pas plus, mais oui, je veux dire, pas plus le Bangladesh que le Pakistan. N'ont envie d'afficher la moindre solidarité avec ces musulmans birmans, qui sont tout simplement des bannis à disparaître. Enfin, leur image doit passer de l'autre côté, mais il n'y a pas d'espace pour cet autre côté. Voilà.
Monique, juste bah, pour poursuivre et donc donner du grain à moudre, oui, sur cette question-là de où on serait au-delà de la guerre, en complètement abasourdi par quelque chose qui serait lors d'une destruction totale. Alan Bass, là, dans son étude sur le principe de génocide, raconte que c'est aussi quelque chose, j'allais dire presque de culturel. Il va chercher la notion de psychose normale chez Freud pour parler de cette manière de rejeter complètement celui qu'on considère comme l'autre. Et son article commence d'ailleurs pour montrer notre culture et abrahamique et grecque par citer le massacre des Madianites dans la Bible par les Juifs. Et il rappelle aussi comment les Athéniens massacrèrent tous les habitants de Mélos en 416 avant Jésus-Christ. Donc ce qu'on essaye aussi de penser à Chimère et où là cette question du génocide pousse ce questionnement à son extrémité, c'est comment sortir d'une sorte de politologie ou des concepts du politique classique, des théories de l'ennemi, comme on peut les retrouver chez Carl Schmitt d'une certaine manière, et où à l'extrême on arrive à cette logique du génocide. Comment on peut transformer les choses profondément à travers bah, la psychanalyse, mais pas une psychanalyse qui se ferait en cabinet. Et c'est un peu aussi la pensée de Deleuze et Guattari, c'est une traduction de la psychanalyse pour réinventer les concepts du politique, ce qu'on peut trouver aussi par ailleurs chez d'autres auteurs, avec Derrida d'une autre façon, etc. Donc c'est ça l'enjeu qui est derrière aussi la revue et que je souhaitais rappeler. Et là, ça, vous m'avez donné l'occasion de dire un mot.
Merci Elias. Quelqu'un veut prendre la parole? Marie-Laure, Bernard Mérigot, Marie-Henriette, Alice Athénour, que je ne connais pas.
Voilà, je peux dire un mot, là, Monique?
Oui, allez-y, allez-y, Marie-Laure. Présentez-vous, hein.
Donc, Marie-Laure Dumont, je suis psychanalyste et membre du CIPA. Donc, je m'intéresse à l'anthropologie
SIPA,
psychanalytique.
SIPA, il faut préciser ce qu'est le SIPA.
Collège international de psychanalyse et d'anthropologie. Et donc, je m'intéresse à l'anthropologie psychanalytique, c'est-à-dire les impensés, on pourrait dire, anthropologiques avec la personnalité de l'individu. Je me disais, en écoutant, deux choses. D'abord, la richesse de la revue profonde dans un climat aujourd'hui bien plus que compliqué, que vous soyez réunis. Ça, je trouve que c'est une prouesse. La deuxième chose, je voudrais intervenir sur l'archaïque. Je me disais, mais que devient la lettre que Freud a écrite à Einstein, Pourquoi la guerre? Qu'est-ce qu'elle deviendrait, cette lettre actuellement, qui était une lettre à la fois très profonde, mais sans solution, qui en général hérite beaucoup les psychanalystes, hein, puisque c'était la civilisation doit pouvoir endiguer les instincts meurtriers de l'individu qui sont en lui-même. Là, nous avons un déploiement actuellement de tout ce qu'on pourrait dire le plus archaïque qui soit, c'est-à-dire éradiquer l'altérité, la question de l'autre. Et c'est pour moi, ça ramène au-delà, on pourrait dire, des fantasmes, à l'émotion et à la sensorialité, c'est-à-dire à tout ce qu'il y a de plus profond en l'être humain et qui sont deux mouvements les plus archaïques, l'absorption et le rejet. D'où on pourrait penser que par l'absorption du monde, on ne peut pas se comprendre, chacun l'absorbe à sa façon, comme le petit bébé. Et la deuxième chose, le rejet, c'est-à-dire ça n'existe plus, ça n'a jamais existé, on ne veut même plus y penser. Voilà, c'est ce que je me suis dit en vous écoutant.
Merci beaucoup. Vas-y, si tu veux. Enfin bon, je voulais remercier Marie-Laure.
Bah,
Je trouve
merci Marie-Laure, je la remercie aussi du coup. Oui,
que c'était très important. Bon, vas-y, vas-y, Elias. Je prends, vas-y, dis-moi.
alors comment dire, bah, dans ce numéro, Alan Bass évoque un peu ça, mais lui il repart plutôt de Mélanie Klein, hein,
Oui, j'ai compris.
avec la bonne et la mauvaise mère, avec cette espèce de logique un peu binaire jusqu'à ce qu'il fasse l'expérience qu'il est lui-même la cause des propres destructions, finalement, qui ne sont pas un objet externe, et pas, il passerait à une phase dépressive, et ça lui permettrait d'intégrer une forme d'ambivalence. Donc c'est des notions qui sont assez classiques, hein, en psychanalyse, et avec lesquelles on est à l'aise, et pourtant c'est très
Voilà,
difficile de les
ça ne
intégrer
marche pas.
politique. Ah ben ça
Non.
marche pas, ça dépend, parce que dans le champ
Non.
psychanalytique, c'est des choses avec lesquelles on travaille et qui font partie de la manière de repenser les relations.
Oui.
Et alors pourquoi ça marcherait pas s'il y avait, pourquoi il n'y aurait pas de contamination du côté du politique? Et pour reprendre la lettre d'Einstein, donc moi j'ai un peu travaillé dessus parce que c'est derrière il y a la question de la pulsion de pouvoir et il y a des prolongements à
Voilà.
cette discussion. Et là, je peux renvoyer par exemple à un texte de Derrida qui s'appelle Spéculer sur Freud, où Derrida analyse comment Freud arrive à penser quelque chose qui serait de l'ordre d'une pulsion de mort ou d'une pulsion de pouvoir au-delà du principe de plaisir, mais qui reste pris dans sa logique binaire, aussi à opposer pulsion de vie et pulsion de mort, donc un pas en avant, trois pas en arrière, et que ça l'empêche peut-être de faire un certain frayage qui expliquerait cette lettre à Einstein où il reste un peu sans réponse à se destituer du politique, mais en fait c'est un problème qui vient de l'impensé de Freud lui-même, en tout cas tel que ça a pu être pensé ensuite par d'autres auteurs de. Donc ça, il y a beaucoup de réflexions sur qui ont poursuivi pourquoi la guerre.
Alors, moi,
Oui, alors.
je dirais, c'est pas la. Je peux continuer, Monique, ou non?
Continuez, continuez, Marie-Laure.
Non, je voulais vous répondre parce que quand je dis ça ne fonctionne pas, non, c'est bien sûr que Mélanie Klein fonctionne et je ne renierai pas. Mais moi, je me situerai du côté de Pierre Aoulanié, c'est-à-dire du côté de l'originaire. Et c'est là où on est dans un stade si régressif qu'on est apolitique, c'est-à-dire à quelque chose, c'est-à-dire ça ne peut pas exister. Et c'est là où toute la difficulté est de pouvoir remettre de la subjectivité, remettre un peu de sens. Mais on est vraiment, je ne pensais pas le voir, puisque j'ai travaillé depuis des années sur la pensée de Pierre Aulagné, et le voir sur le champ sur le champ de la société. Voilà, c'est ça qui, moi, m'intéresse actuellement. C'est-à-dire, on
Oui.
n'est plus dans l'ambivalence, hein. On est dans cette espèce de polarisation des choses où l'autre est inaudible pour soi. Comment, quand on parle, on se dit, je vais me faire comprendre, et l'autre en face répond, tu es pas audible. Tu es pas audible. Alors, j'écoute l'autre et je me pense la même chose. Voilà.
Comme on est dans un séminaire anthropologie, psychanalyse et politique, mais aussi anthropologie, je voulais faire un petit recentre par rapport à ce que vous avez dit, Marie-Laure, qui est très important. Je voulais faire un petit recentrage anthropologique, qu'en fait, le terme d'altérisation, hein, je veux dire, est rentré très récemment dans le vocabulaire anthropologique. Mais qu'effectivement, un terme qui n'est pas du tout rentré dans le vocabulaire anthropologique, c'est celui d'archaïque. Hein.
Oui,
Je veux
c'est
dire,
vrai.
dans la mesure où le terme d'archaïque est toujours. Alors qu'il est rentré dans le vocabulaire sociologique. Hein. Je me rappelle très bien, par exemple, un commentaire de Pierre Lanz, je veux dire, une recension de Pierre Lanz sur le travail que j'avais fait sur les génies au Laos, disant que c'était de l'archaïque. Donc là, quels que soient les vocabulaires qu'on emploie, en tous les cas, le terme d'altérisation tombe en obsolescence, parce qu'on n'est plus du tout dans un processus d'altérisation. C'est-à-dire, on a dépassé le processus d'altérisation et on est passé, je veux dire, plutôt que de parler de l'archaïque ou de l'original, je ne sais pas, moi, ce qui me vient à l'esprit là, en vous écoutant, Elias et vous, Marie-Laure, c'est plus un vocabulaire existentialiste, sartrien,
Peut-être.
à savoir qu'on est passé dans des logiques de néantisation.
Oui.
Ce qu'il y a derrière l'altérisation, c'est ce que, enfin, je veux dire, c'est ce qu'affronte Sartre en posant l'hypothèse du néant. Et c'est, moi, je mettrais le néant à la place, en tous les cas, de l'originaire. Et de l'archaïque, avec cette idée qu'effectivement, le néant a une dimension, enfin chez Sartre en tous les cas, a une dimension parfaitement subjective, puisqu'en fait c'est l'affrontement de chacun à soi, et en même temps, le néant a une dimension totalement objective, et peut-être c'est ça qu'on est en train d'affronter. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je ne sais pas si par rapport au temps qui passe, qui veut s'exprimer, Anastasia, qui est toujours là, non? Est-ce qu'Anastasia est partie? Oui, apparemment, Anastasia est partie. Marie-Henriette, Catherine, Elsa, Bernard, Mérigot. Vous vous
Brièvement,
présentez, Bernard?
anthropologue. Brièvement, ce que je retiens parmi les choses qui ont été dites, c'est la question de la génération. La sociologie, il y a des travaux qui se sortent sur la. C'est de repenser la question des générations. Générations qui vivent, subissent la guerre, et puis générations qui la pensent. La publication, le fond, je n'ai pas pu me la procurer, la Palestine, Gaza, depuis la publication, le monde est confronté à un nouveau domaine de guerre concernant l'Iran, et l'impression que je ressens, c'est qu'il y a des choses inédites, il y a des choses qui sont difficiles à penser. Concernant le jugement sur la guerre. Pour faire le lien avec la notion de génération, relisant un auteur qui est intéressant d'un tout point de vue, qui est Jacques Maritain, la période très intéressante de Jacques Maritain, c'est le moment où il est à New York avec Lévi-Strauss, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a eu cette phrase, et c'est une phrase qu'il formule à propos de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne a été quelque chose de très important. Ça s'est passé à la porte de France.
La France a été ensuite prise par le conflit de la Seconde Guerre mondiale. Jacques Maritain a cette phrase dans un interview qu'il accorde à une revue américaine: une insurrection n'est légitime que si elle ne crée pas un mal plus grand que celui qu'elle vise à remédier. L'insurrection n'est légitime que si elle ne crée pas un mal plus grand que celui qu'elle vise à remédier. Je suis frappé par les commentaires concernant ce qui se passe de l'Iran, en Iran, Israël, etc. C'est qu'il y a quelque chose qui est dominant, et là on n'est pas dans le retour, mais on est dans la justification. On découvre, et ça fait relativement consensus, sans que ça pose de problème, je dirais, moraux. Un bombardement peut être juste. On peut frapper des populations civiles dans la mesure où le but du bombardement est, au moment où c'est fait, pensé, présenté, justifié, argumenté, débattu sur les plateaux des chaînes en continu et sur les réseaux sociaux comme étant légitime parce que ça préserve d'un mal qu'on imagine, qu'on présente comme étant plus grand, sans que personne ne soit en mesure de le prouver. Donc cette question de génération, est-ce qu'une génération qui vit un conflit, qui vit tout ce qu'il y a autour, est en mesure de le penser? Et qu'est-ce que l'expérience acquise de l'histoire, bon, de des réflexions et des travaux qui peuvent avoir été menés sur des conflits antérieurs. Et je crois que la guerre d'Espagne qui a fracturé, s'est passé des choses, je dirais, d'un ordre voisin avec les moyens qu'il y avait à l'époque par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, avec cette question ultime qui est le renversement, la prise de pouvoir, le renversement du pouvoir. Est-ce qu'un pouvoir arrive à ce est-ce qu'il est légitime que ces actes soient commis dans la mesure où ça préserve de façon argumentée et je dirais imaginaire d'un mal plus grand? Je crois que la question, que je ne formule pas d'une façon très claire ni complètement aboutie, est quelque chose qui est présent aujourd'hui et qui n'est pas réfléchi et pensé.
Alors,
Merci beaucoup, Bernard. Oui.
Nava a levé la main pour intervenir.
Ah, très bien.
Merci. Je voulais rebondir sur cette question de génération parce qu'elle me semble très intéressante, elle me questionne d'autant plus que je trouve que l'outillage qui vient avec l'expérience naît aussi de l'expérience de vivre dans ce climat. C'est-à-dire que je pense que mes parents et mes enfants sont beaucoup plus outillés que moi par rapport à certaines confrontations et épaisseur de peau, si on pourrait dire, de confrontation des difficultés, pour avoir vécu ça dans une période de vie qui les a formés pour ça, d'une certaine manière. Je pense que l'enfance, effectivement, quand la période de la jeunesse en traverse certaines difficultés, elle nous forme et de fait, je fais partie d'une génération sandwich d'une certaine manière, entre des grandes périodes d'exposition à des grands conflits. Et de fait, cette question de génération, je me la questionne en regardant vers le haut et vers le bas, en me questionnant justement sur la jeunesse aujourd'hui qui connaît des difficultés qui naissent dedans, qui grandissent dedans avec des difficultés qu'on a du mal à outiller quand on n'a pas été, quand on intellectualise seulement là-dessus, d'une certaine manière. Donc ça, c'était une première réflexion que j'avais envie de partager. Et la deuxième concerne un peu l'intervention que j'avais commencé tout à l'heure à dire, parce que dans la question du début de l'entretien que j'avais fait avec Philippe Recasevic, j'ai évoqué le numéro Ville et guerre de 2001. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait re-questionner de la même manière, en inversant d'une certaine manière, c'est-à-dire ce que les guerres forment des villes, c'est-à-dire en reprenant la question d'une manière inversée, parce que ces villes et guerres voulaient bien dire ce que les guerres font pour aussi dans la création des villes, mais en partant des résultats et des conséquences brutales aujourd'hui dans beaucoup de villes, justement, pas du tout que Gaza. Et de re, voilà, il y avait quelque chose qui me revenait là-dessus en me disant, j'aurais pu reprendre d'une certaine manière cette discussion en partant de la destruction. Merci beaucoup, Nava.
Est-ce que parmi ceux qui n'ont pas pris, celles qui n'ont pas pris la parole, Catherine, Marie-Henriette, qui est toujours là, Alice, que je ne connais pas, Elsa, vous avez envie de faire un commentaire avant qu'on se sépare à midi? Ou midi et demi, si vous voulez. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu as prévu, Elias? Midi, tu avais mis midi ou midi et demi?
Oui, pas de problème, comme
Ouais.
très bien.
Ouais. Est-ce que quelqu'un veut faire un autre commentaire?
Je sais pas, moi j'ai été assez choquée tout à l'heure par la conversation sur le néant et je me suis dit, on tombe dans les générations, que si on va voir ce qui se passe dans des cours d'école, contrairement à ce que racontent les journaux, on a un monde où il y a de l'altérité croissante au point de vue ethnique, hein, et où les gosses s'en démerdent. Et le parle et s'en démerde. Et je trouve qu'en fait, il y a des tas de conduites sociales qui sont à l'envers de ce qu'on raconte. Enfin.
Incompatible.
Oui, Anne, encore une fois, c'est une question des niveaux où on se situe. Je veux dire, on est dans des processus, il y a des altérités, il y a des processus d'altérisation aussi dans les écoles, et puis il y a un niveau, un autre niveau qui est beaucoup plus macro, où effectivement on peut dire, et on peut dire aussi que des gens se confrontent au néant. Y compris à partir de ce niveau macro, je veux dire, le choc qu'a provoqué la guerre à Gaza sur des gens, je veux dire, des personnes pour qui elle a rappelé, par exemple, la guerre d'Algérie, c'est ce qui est, c'est ce que on avait publié, je le rappelle, l'entretien que j'avais fait avec Tassadit Yassine. Et on avait d'ailleurs fait une séance de ce séminaire autour du numéro dans lequel cet entretien était paru. Marie-Dominique, tu vas me rappeler, si elle est encore là, quel était le numéro. Je veux dire, le choc absolu qu'avait provoqué, et chez d'autres collègues aussi, collègues et amis, le choc absolu qu'avait provoqué la guerre à Gaza n'est plus, et effectivement, est de l'ordre de quelque chose qui touche au néant. Donc voilà, maintenant.
Qui touche au règne dans les armées dominantes de l'aviation à un point de plus en plus en plus croissant qui permet de faire la guerre sans pratiquement tuer de soldats de son côté à soi et en tuant un maximum, enfin pas forcément un maximum, en tuant des gens et essentiellement des civils dans le camp d'en face. Et c'est un truc techno, enfin là il y a un filum technologique de la guerre. Qui a été étudié déjà depuis la Première Guerre mondiale, la Seconde et ainsi de suite, bon, enfin, qui
Et
est
tout ça ne
effectivement.
détruit pas, je veux dire, il n'y a aucune raison de s'attaquer au concept de néantisation que Sartre met en avant.
Ben, je sais, moi, j'aime pas, voilà.
Ben,
Bon.
tu n'aimes pas, mais tu as le droit de ne pas aimer, mais tu peux respecter qu'il y ait
Alors.
d'autres, tout simplement d'autres manières de
Mais
penser.
j'ai l'impression qu'on prend son pied. Ah, la néantisation. Nous, on est plus fort que ça. Qu'est-ce qu'on est chic.
Mais c'est le contraire.
Ben,
C'est
non, ce n'est pas le
exactement le contraire.
contraire. Ce qui s'exprime sur mon écran, c'est la jouissance de la néantisation. Voilà.
Mais relis l'entretien qu'avait fait Tassadit,
Oui,
s'il
je
te
l'ai
plaît.
déjà lu.
Oui. Donc
Pas
elle
tout à fait
parlait
d'accord.
avec d'autres mots, elle parlait véritablement de ça. Et je veux dire, bon, non,
Oui,
on
ben
va
moi, je viens de lire
on n'est
aussi.
pas, on n'est pas, on n'est pas là pour rentrer dans un conflit là-dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre veut
Il y a
s'exprimer?
Marido et Yves qui ont levé la main aussi.
Bon, ra rapidement, je ne sais pas si j'ai mis le son. Il y a le son, c'est bon. Sur ce néant, je voulais rappeler, effectivement, moi j'ai aussi réagi un peu de la même façon. Alors, je suis pas du tout sartrienne et je connais pas grand-chose à. J'ai pas relu, j'ai lu les petits bouts de Sartre, mais pas du tout le volume entier. Sixou a réagi un peu comme toi, Anne. Sixou s'en prend à ce mot de néant. Je vous cite une phrase, je sais pas si elle va vous calmer ou pas, c'est dans un beau texte. Aïe aïe. Ça s'appelle Aïe Aïe, son texte. Et le sous-titre, c'est Le cri de la littérature. Et voilà, je me rends pas, c'est ce qu'elle dit, je cite, hein, je me rends pas, ce qui est fini n'est pas fini, ce qui est fait il ne peut être défait, peut être défait. Je prends le mot néant et le retourne en son contraire, néant. Voilà. Il y a une réaction épidermique aussi et littéraire.
Mais je veux dire, j'accepte parfaitement, hein, mais personnellement, je maintiens que les textes de Sartre sur le néant, sur la néantisation, sur ce que le néant provoque de liberté pour soi et non de liberté en soi, je veux dire, qui est effectivement toute la logique sartrienne, bon, je pense qu'elle peut, elle touche un certain nombre de gens et qu'on n'a aucune raison de, en
Et dans
quelque
la
sorte,
logique sartrienne, il n'y a pas que le néant. La conscience est un être pour lequel il est dans son être, question de son être en tant que cet être implique un être autre que lui. C'est pas le néant, c'est l'altérité, justement.
mais il y
J'ai
a les
appris
deux,
cette phrase quand j'avais 15 ans.
oui, Yves
bon.
aussi.
Sartre, pourquoi Sartre provoque des déchaînements comme ça?
Mais parce que
Laissons, non, laissons parler, parler. Laissons parler
c'est
Yves.
Aspine.
Proposons à
Oui,
elle.
non, juste pour revenir, parce que je suis désolé, parce que je suis sûrement très néophyte par rapport à vous sur ces questions, mais pour revenir à cette histoire, par exemple, quelque chose qui m'a marqué, c'est que Jean-Pierre Filiou, dans le bouquin qui vient de sortir, et dans les présentations qu'il en a faites à droite et à gauche, ne parle pas de génocide, alors que le génocide est incontestable, et il est d'accord, enfin, il est incontestable, il est d'accord avec cette notion, mais il ne l'emploie pas. Et il parle de guerre anti-humanitaire.
Oui.
Et il me semble que, je veux dire, le concept, tout ce qui tourne autour, enfin, la rencontre de la violence absolue provoque un effet de sidération. La guerre, c'est autre chose. Qui dit guerre, dit résistance, dit combat, dit aussi héroïfication, etc. Et il y a quelque chose de positif qui peut se transmettre à condition de faire tout un travail d'élaboration autour de la guerre. Ce qui me frappe, moi, dans la période qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on est assailli par des messages qui viennent de toutes parts et qui sont aussi faits pour nous détruire. Et je me demande même si le concept même de génocide n'est pas finalement assumé d'une certaine façon, sans le dire, par les gens qui le commettent, parce qu'ils savent que ça va avoir un effet de sidération, ça va provoquer une forme de désintérêt, parce que c'est trop insupportable. Si on parlait, enfin je veux dire, le concept de guerre est politique. Moi, j'ai longtemps cru que le concept de génocide était politique. J'ai grandi en réfléchissant beaucoup à la Shoah, etc. Et là, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut, enfin, si on veut entrer en lutte contre ceux qui nous détruisent, ceux qui nous menacent, ceux qui menacent nos amis, nos frères, nos contemporains, mais aussi nous, et nous à travers eux et eux à travers nous, eh ben, c'est la manière dont on parle aujourd'hui de ce qui se passe. Et il me semble qu'il faudrait changer de lexique.
Merci Yves.
Il y a Catherine
Yves?
aussi qui
Ah
voudrait dire un mot.
Catherine, voilà. Catherine. Les gens changent de place sur l'écran.
Ouais.
Non, moi c'était juste pour dire que j'ai pas écrit de texte pour ce numéro, mais j'avais le désir d'en écrire un qui était Que peut l'art? Et bon, c'est pas parce que j'ai pas su, mais bon, j'ai pas eu le temps de l'écrire, mais en tout cas, la question me revient. Qu'est-ce que peut l'art? Je pense qu'il peut pas grand-chose, même il peut aussi des choses. Je peux pas aller plus loin dans ce que je pourrais dire là maintenant, mais en tout cas, malgré tout, quand même poser la question.
Elsa, vous voulez intervenir?
Bon, je sais pas si l'intervention aura véritablement.
Présentez-vous d'abord, présentez-vous.
Oui, alors moi je suis Elsa, donc Jean-Boredon, je suis psychologue clinicienne initialement. Je fais partie du CIPA, donc le Collège international de psychanalyse et d'anthropologie. C'est comme ça que j'ai eu vent de votre séminaire. Et je m'intéresse au sujet d'aujourd'hui. Bon, moi je travaille sur la radicalisation. Voilà, je reçois des adolescents dans ce cadre-là. Voilà, les croyances, la religion, la guerre, c'est des sujets que je travaille un peu au quotidien. Et puis par ailleurs, je travaille aussi dans un lieu de psychothérapie institutionnelle. Donc, ça m'intéresse beaucoup de vous entendre bon, et avec l'antériorité de votre revue. Voilà. Moi, la seule chose enfin, que j'avais envie de partager là, c'est sur cette notion de guerre. Je me demande, alors c'est à la fois sur la notion de guerre dont parlait Yves Lacascade, et puis sur cette histoire de génération. Je pense qu'elle est importante parce que, alors moi, je fais partie d'une génération qui n'a pas connu la guerre, j'ai pas d'expérience de la guerre. Et je pense que ça change beaucoup de choses, en effet, dans la manière dont on peut l'appréhender aujourd'hui. Et je me demande si notre représentation de la guerre comme potentiellement propre, parce qu'il y a cette idée que la guerre, voilà, ça pourrait être un peu mieux que ce qu'on vit aujourd'hui. Je sais pas vraiment si c'est la réalité. Je me demande si c'est justement pas parce qu'on n'en a pas l'expérience, qu'on l'imagine un peu plus propre qu'elle n'est. Moi, je me demande si dans la guerre, il n'y a pas toujours de la destruction. Il y a toujours. Enfin, je ne sais pas, après les récits qu'on en fait par la suite, ça peut être un peu différent, mais je me dis, il y a toujours c'est toujours sale, c'est toujours dur, c'est toujours destructeur. Et donc, je me demande si ce n'est pas parce que jusqu'ici, dans notre expérience, elle a été loin de nous, qu'on l'imagine un peu plus propre que la réalité. Voilà, si elle était à notre porte depuis des années, je ne sais pas si on pourrait dire que la guerre. Bien sûr qu'il y a des garde-fous, il y a le droit international dont on parle beaucoup aujourd'hui, il y a des guerres un peu plus institutionnelles entre deux armées. Et malgré tout, je pense que la population est toujours impactée, si je puis utiliser ce néologisme.
Merci Elsa. Marie-Laure?
Ça me fait penser dans la suite de ce que vient de dire Elsa et puis de ce qu'on a parlé, dont il a été aux questions aussi de cette guerre technologique et qui serait soi-disant une guerre propre. Je me dis, qu'est-ce que c'est qu'une guerre quand la technologie remplacera le corps à corps et qui, au fond, peut éradiquer des villes, etc., donc des civils, des innocents, je dirais. Et je pense beaucoup à ça. Parce que guerre propre, si c'est pour que toute une ville, un village, une population soit éradiquée, ça pose question par rapport à ce qu'était autrefois le corps à corps.
Merci. Marie-Henriette, Alice Athénour, que je ne connais pas. Voulez-vous prendre la parole ou je la repasse à Elias pour conclure?
Juste, il y a Yves Lacascade qui mettait un message écrit.
Oui, et sur lequel moi personnellement, certes,
Ah.
la guerre n'est jamais très loin, mais en même temps, quand on ne la vit pas au premier degré, les récits ne sont pas du tout les mêmes. Donc, moi, je suis issue d'une deuxième génération, effectivement, les récits de mes parents ne sont pas du tout les miens, et quand bien même j'ai vécu des choses de près, tant qu'elles ne sont pas vécues charnellement, je pense que c'est compliqué de les comparer. En tout cas,
Non,
je.
non, non, mais juste, puisque je suis interpellé, juste ce que je voulais dire, c'est que je ne dis pas que le degré de proximité est le même, mais il y a une transmission. Enfin, la guerre est quelque
Bien
chose qui se
sûr,
transmet, et le
bien
souvenir de
sûr.
la guerre et l'élaboration, voilà. Et
Bien sûr.
moi, je ne laisserai personne dire que, même si moi, je n'ai pas vécu personnellement la guerre a été loin de moi. La guerre n'a jamais été
Bien
loin de
sûr.
moi pour des raisons biographiques
Absolument.
propres, et j'étais, voilà. Et propre à ma famille et à moi. Donc, je me suis construit avec ça. Et là, je vois alors qu'elle revient, j'ai l'impression qu'on m'enlève les moyens. Ah là, ça va être un peu personnel, mais je me dis que d'une certaine façon, tout se passe comme si on m'enlevait les armes que je m'étais construite. Voilà. Et je suis pas d'accord avec ça et je me laisserai pas faire.
Moi, j'avais en tête, en vous parlant, j'avais en tête, parce qu'il y a quelques années, alors je me rappelle plus, j'ai refoulé, hein, mais je me rappelle plus quel était le climat ambiant, mais on était très inquiets d'une, je sais plus, c'était en France, hein, mais je me rappelle plus quelle était l'actualité à ce moment-là. Mais j'étais avec une psychanalyste, mais qui est argentine, enfin franco-argentine, donc a vécu la dictature en Argentine. Et elle nous disait, donc elle est à la fois d'une autre génération et d'une autre culture aussi. Et elle nous parlait en tant que. Elle s'adressait à nous qui étions jeunes et français. Elle nous disait que les Français, de son point de vue à elle, hein, avait vécu dans une illusion de paix, enfin dans la paix, la vraie, pendant extrêmement longtemps. Et que pour elle, ça lui paraissait très étrange, presque anormal d'avoir une si longue parenthèse de paix dans ce monde bon, qui est bouillonnant. Et du coup, ça m'a fait voir les choses un peu différemment. C'est-à-dire, nous qui nous inquiétions de se dire qu'est-ce qui va se passer, bon, ça sent pas bon, voilà. Et elle nous disait très calmement qu'il fallait se préparer à une autre ère parce que, en gros, il fallait se réveiller d'un doux rêve qui, pour elle, était presque une illusion d'avoir vécu dans cette certitude de paix, en fait. En France. Voilà, et du coup, c'est pour ça que je me dis, en fait, on est presque enfin, moi, en tout cas, ma génération, on est presque un peu en décalage par rapport à la guerre, même si, moi, je suis d'accord avec vous, hein, monsieur Lacascade, dans ma famille aussi, il y a beaucoup d'expériences de guerre, mais on croyait que c'était fini.
Merci Elsa. Je te repasse la parole, pardon, Elias, pour conclure.
Eh bien, merci Monique. Je ne sais pas quoi ajouter. Bah, merci à vous, hein. C'était la première présentation qu'on faisait donc de ce numéro. On espère qu'il y en aura d'autres. Et puis bon, bah, si vous voulez continuer l'échange, bah, on pourra échanger nos mails ou on vous tiendra au courant si on refait une présentation et ça sera l'occasion de continuer la discussion entre nous, que tu vois autre... Enfin voilà, merci du coup. Monique, si tu veux.
Oui, non, ce que je. Oui, bah merci, merci beaucoup d'être venu. Pour ceux qui viennent pour la première fois, il faudrait, si vous voulez être tenu au courant directement du séminaire, il faudrait écrire à. Vous voulez que je vous le dise ou qui veut être tenu du séminaire? Secrétariat AFA. Je suis en train de chercher le maître, je ne l'ai pas mis.